France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Il s'appelait Ulysse Moïse, il était juif, noir, américain, il avait fui les États-Unis pour échapper à la guerre du Vietnam et s'était installé en France. Marxiste, un peu dandy, très séducteur, il y fut étudiant en cette fin des années 60 qui furent aussi celles d'un rêve de révolution partagée. Comme l'ensemble des amis de cet homme, l'anthropologue Nicole Lapierre découvrit au moment de sa mort que ce prénom mythologique n'était pas le sien, pas plus que l'ascendance, les conquêtes ou le parcours qu'il s'était inventé. Dans un livre en forme de portrait, elle interroge les liens profonds qu'entretiennent le mensonge, la littérature et le souvenir. Elle est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier, postée au carrefour des enjeux numériques et littéraires. Lou feuillette aujourd'hui le magnifique herbier numérisé de la poétesse Emily Dickinson. En fin d'émission, nous jouons à chercher de la musique dans des livres, grâce à quoi nous nous quittons en chanson. Vous avez le programme, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nicole Lapierre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct aujourd'hui pour évoquer ce beau livre, Le plus menteur d'entre nous, c'est son titre, il a paru aux éditions du Seuil. Nicole Lapierre, vous êtes sociologue, anthropologue, on vous doit bien des essais dans lesquels, comme dans ce livre-ci, il est souvent question en creux, au détour d'une réflexion de littérature. Dans Le plus menteur d'entre nous, vous convoquez aussi bien des poètes, des romanciers que des philosophes pour vous souvenir de cet homme, on va en reparler. Mais ici, dans cette émission, on commence toujours par un portrait de nos invités, et bien précisément en tant qu'ils sont des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez où et comment vous avez appris à lire, Nicole Lapierre ?
Je pense que j'ai appris à lire en CP à l'école communale de la rue Corbon dans le 15e.
Vous avez le souvenir, de l'instituteur, de l'institutrice, du manuel ? Qui était
non,
le sien
non
à ce moment-là.
J'ai un souvenir très précis de l'école, de la rue, et aussi du marchand de bonbons qui était juste à côté. Mais non, j'ai pas de souvenir. Non, je me souviens des lieux. Je me souviens de deux petites camarades à l'école qui avaient, j'y repensais parce qu'après, plus tard, j'ai travaillé sur les noms, les changements de noms. L'une s'appelait Courte Cuisse et l'autre était Noble et s'appelait De la Morvonnée.
C'est incroyable.
À Y comme nom. À la fin. Et évidemment, on s'en moquait terriblement et ça c'est quelque chose qui m'est resté.
Est-ce que, si on avance peut-être de quelques années, vous avez le souvenir des premières lectures qui vous ont marqué ? Est-ce que d'abord vous étiez, une fois l'apprentissage de la lecture en tant que telle faite, une enfant qui lisait beaucoup ?
Oui, mais à l'époque, quand j'étais enfant, il n'y avait pas l'incroyable variété de livres qu'on a aujourd'hui, que j'ai vu pour mes propres enfants et mes petits-enfants. Donc c'était, je me souviens que j'adorais Babar et Céleste, le journal de Mickey, et après les contes de Perrault, les contes de Grimm, enfin c'était très classique. Mais je lisais beaucoup, puis mes parents, c'était normal, c'était même pas des cadeaux les livres, les cadeaux c'était les jouets, les vêtements, les livres, ça faisait partie, dans cette famille de, il fallait prendre l'air, bien manger, ça c'était l'hygiène, puis il y avait l'hygiène intellectuelle si on peut dire, donc il y avait toujours des livres.
Il y avait beaucoup de livres à la maison. Vos parents eux-mêmes lisaient beaucoup ?
Mes parents lisent. Ma mère, pas tellement. Ma mère allait surtout dans les musées, les expositions. Elle avait fait les arts déco. C'était pas une grande lectrice. Mon père, plus. Et ils avaient le souci, pour ma sœur comme pour moi, la plus jeune, qu'on ait toujours des livres. Donc il y avait tous les contes. C'est vraiment... après, il y a eu la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, le club des cinq que j'adorais. J'y repensais aussi parce que quand j'ai eu une maison de campagne, c'était une famille juive où il y avait de la bourgeoisie juive. Il n'y avait pas de maison de campagne. Il n'y avait pas des bandes de cousins qui faisaient comme ça des enquêtes, comme dans le Club des Cinq que j'aimais tant. Et finalement, quand j'ai eu beaucoup plus tard une maison et que les petits-enfants se sont appropriés cette maison, j'y ai repensé. C'est pour ça sans doute que mes souvenirs sont précis. Mais, puisque je parle de mes petits-enfants, cette collection, en tout cas la collection verte dans laquelle il y avait le Club des Cinq...
Oui, la bibliothèque verte.
Bibliothèque verte, voilà.
Dont on fête, je crois, il me semble, les 100 ans cette année, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui.
Ouais.
Elle est restée si bien qu'elle s'est retrouvée dans cette maison de campagne. Et elle n'a jamais, à cause de la couverture, je crois, les mêmes livres réédités avec des couleurs, des couvertures glacées l'auront beaucoup plu, mais ma vieille bibliothèque verte ne les attirait pas du tout. Les couvertures étaient austères à l'époque. C'est vrai. D'ailleurs, verte. En effet.
Plus tard, elles ont été agrémentées de quelques dessins, mais ça reste relativement discret. Ouais.
Ouais, les miens étaient verts, et quand j'y pense, puisqu'on parle des livres, dans cette maison de campagne, où il y a aussi des grandes bibliothèques, il y a cette vieille bibliothèque verte, et il y a aussi les œuvres complètes de Lénine, que m'avait offert mon père quand j'avais fait... justement dans ces années 68, un diplôme, une maîtrise sur la théorie léniniste de l'organisation. Quand j'y repense aujourd'hui, je me trouve ça un peu fou. Mais pourquoi j'associe les deux ? Les deux ont des couvertures cartonnées vert épinard et se retrouve à la campagne.
Ça compte aussi l'objet livre,
oui,
en particulier dans les souvenirs qu'il nous laisse. Est-ce que vous sauriez dire le premier livre, que ce soit écrit théorique ou bien roman, poésie, qui vous est complètement embarqué comme lectrice, le premier livre que vous n'avez pas pu lâcher, dans lequel vous vous seriez sentie enveloppée, Nicole Lapierre?
Alors, que j'ai pas pu lâcher, je ne sais pas. Ma sœur, après, ma sœur avait près de 8 ans de plus que moi. Et à un moment, c'est elle qui a pris en main, d'une certaine manière, mon éducation littéraire. Donc, elle m'apportait des livres qu'elle prenait à la bibliothèque régulièrement, mais elle me lisait aussi, elle me faisait la lecture. Et elle m'a beaucoup, beaucoup lu St. John Peirce. Pour lequel j'ai gardé une véritable passion. Et si je dois... Enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup de livres à citer, mais enfin bon, les poèmes de St. John Peirce ont bercé mon adolescence, ma jeunesse, et j'y suis toujours retournée.
Est-ce qu'il y a un vers qui vous reste en tête, que vous sauriez comme ça citer de mémoire ?
Ce qui me revient, c'est, enfin, il y en a plusieurs, mais peut-être neige, c'est-à-dire puis vers les neiges, les premières neiges de l'absence sur les grands laitissés du songe et du réel, et toute peine remise aux hommes de mémoire. Voilà.
C'est un vers qui fait drôlement écho au livre dont on va parler aujourd'hui. Ça fait le pont. Si on a eu envie de vous recevoir, Nicole Lapierre, aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on a beaucoup aimé votre livre, mais c'est aussi parce que cette semaine, France Culture propose tout un tas de programmes articulés autour de la thématique du souvenir. C'est un livre dans lequel vous vous souvenez de cet ami que vous avez connu autrefois et qui est mort prématurément. Est-ce que la lecture, pour vous, peut aussi être un support port à souvenir? Est-ce qu'il vous arrive d'aller chercher un livre pour vous souvenir d'une époque, pour convoquer une époque de votre vie ou le souvenir de quelqu'un, un peu comme on le fait avec la musique, les chansons parfois?
Ça, je ne sais pas. Bien sûr que je reprends souvent des livres, mais sont plutôt des essais quand je travaille pour retrouver une citation, pour me remettre en mémoire un raisonnement, une réflexion. Donc c'est plutôt de cette façon-là. Quoique là, Je ne sais pas si ça répond à votre question. Récemment, j'ai été voir la, le Guerre et Paix de Bondarchuk. C'est 8 heures là, au cinéma, au Champeau. Donc, le Guerre et Paix russe, parce qu'il y en a eu plusieurs au cinéma. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de retourner au texte, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le film, évidemment. Et notamment, tout l'aspect... c'est curieux parce que ce film a été fait pendant la période soviétique et tout l'aspect de donner la terre aux moujiks, aux paysans, est absolument supprimé dans le film. La part belle surtout est à la guerre. Voilà. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, mais j'avais envie de retourner à Guerre et Paix.
Est-ce que de façon générale, vous êtes une relectrice? Est-ce que vous relisez beaucoup des textes qui vous sont chers?
Non, pas assez. Je me dis souvent pas assez parce que il y a beaucoup de choses, comme les Russes ou j'ai énormément lu dans ma jeunesse et parfois on considère que voilà, c'est lu. C'est pas vrai, c'est trop loin, il faudrait y revenir. Alors après, bon, c'est des questions de temps, de choix, mais souvent je me dis tiens, cet été si je relisais c'est au moins une tentation.
Est-ce que vous êtes anthropologue, sociologue, je l'ai dit, on imagine que la lecture, ça aussi évidemment fait partie beaucoup de votre activité professionnelle. Est-ce que vous avez réussissez à conserver un rapport de plaisir à la lecture alors même que c'est partie prenante de votre travail?
Ah oui, bien sûr. D'abord, J'ai du plaisir à la lecture, tant pour les essais que pour la littérature, la poésie. C'est toujours un grand plaisir. Et très éclectique d'ailleurs. J'aime bien lire des polars aussi. Enfin, je ne dis pas que des choses extrêmement difficiles et compliquées. D'ailleurs, j'ai toujours été un peu la risée de mes enfants d'ailleurs sur le rythme de lecture. C'est-à-dire que si je lis un livre théorique, finalement, comme j'essaye de suivre le raisonnement, j'ai pas besoin de lire dans les détails et je vais assez vite. Bon, c'est une question d'habitude aussi. Si je lis un polar, c'est beaucoup plus lent parce que vraiment je suis l'intrigue. Et si on me met dans les mains une bande dessinée, c'est encore beaucoup plus long parce que j'ai un problème un peu pour coordonner. Texte et images.
Ah oui, c'est drôle parce que souvent on dit que la bande dessinée peut se lire plus vite. Si on s'attarde pas trop sur les dessins, on peut aller plus vite que dans un roman. C'est pas votre cas.
Je m'attarde.
Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur votre table de chevet, s'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des livres sur votre table de chevet?
Oui, il y en a toujours au moins. Je crois que c'est... Qu'est-ce que j'ai là? Je crois que c'est un polar. Je crois, oui, ça doit être la psy, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est un peu là, oui.
Est-ce qu'il y a des livres avec lesquels vous avez l'impression d'avoir un rendez-vous, des livres que vous n'avez pas encore lus, mais dont vous savez que d'une certaine manière, vous imaginez qu'ils vous parleront?
Ça, je ne sais pas, sauf des livres à venir, des livres... dont on me parle, qui sont en cours d'écriture ou à paraître et que j'attends. Et ça, oui. Mais sinon, je ne sais pas.
Il n'y a pas comme ça un livre dont on vous parle depuis toujours, dans lequel vous n'avez jamais osé entrer et dont vous vous dites « Celui-là, il faudrait vraiment que je m'y attaque un jour ».
Non, je ne vois pas, non.
Est-ce que le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est le portrait d'un homme qui... en bien des manières, a fait en quelque sorte de sa vie un roman que vous racontez un peu comme s'il était lui-même un personnage de fiction. Est-ce que vous, il y a des personnages de fiction, de la littérature, dans lesquels vous avez l'impression de vous être reconnu, Nicole Lapierre?
Ça, je ne sais pas. En revanche, je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, il y a quelque chose qui... je pensais d'ailleurs souvent que tout le monde faisait ça et il semble que non. J'adore me raconter des histoires, un peu comme les enfants. Et si je ne suis pas en train de travailler, de discuter, d'être occupée par quelque chose, en général, je me raconte des histoires dont je suis l'héroïne, des histoires que je ne vous raconterai pas, qui peuvent être parfaitement ridicules. Mais
Dommage, on aurait envie de savoir.
Oui, non, mais où je joue un rôle toujours avantageux. Voilà.
Mais c'est quel genre d'histoire ? Vous vous mettez en scène dans quel type de récit ?
Je peux être héroïque, sauver des gens, sauver une situation, réussir un exploit intellectuel, enfin peu importe, enfin, c'est extrêmement satisfaisant.
Et c'est dire à quel point notre imaginaire est fait de ce don de fabuler qui est au cœur, au cœur de votre livre. On va y plonger. Pour y aller, je vous propose qu'on écoute une chanson. C'est une chanson haïtienne qui est interprétée par l'ensemble vocal Amanda. Elle s'appelle Guédé Nibo, du nom d'un esprit dans la religion vaudou haïtienne, esprit qui veille sur ceux qui sont morts trop jeunes.
Panda, venez dans Panda. Venez dans Panda, venez dans Panda, venez dans ce Panda, venez dans Panda, venez dans Panda, venez dans Panda, venez dans ce Panda, venez dans Panda, venez dans Panda, venez dans Panda, venez dans ce Panda, venez dans Panda, venez dans
s'appelait Ulysse et même Ulysses à l'américaine. Son nom de famille était Moïse, il était noir, se disait juif, petit-fils d'un rabbin du Mississippi. Marxiste, un peu dandy, très séducteur, il faisait partie de ce groupe d'amis qui s'étaient rencontrés autour de l'université de Nanterre en cette fin des années 60. Mais ni ce nom, ni cette ascendance n'étaient véritablement siennes, pas plus que les prétendues conquêtes amoureuses dont il aimait se vanter. C'est ce que vous découvrîtes, Nicole Lapierre, à sa mort brutale dans les années 90, il avait 44 ans. Votre livre est le portrait de cet homme qui fut votre ami, vous partez sur ses traces, explorant une histoire qui est aussi un peu la vôtre. Une histoire que vous avez veillé à écrire sans trop le trahir, c'est c'est-à-dire, précisez-vous, en inventant dans ses traces. Inventer dans les traces, belle expression pour nommer peut-être ce que c'est que de se souvenir de quelqu'un, d'en porter une mémoire vivante. Le plus menteur d'entre nous, c'est le titre de ce livre qui a paru au Seuil cet automne. Et on vous retrouve, Nicole Lapierre, pour en parler. Citant ces quelques mots, je vous trahis à mon tour un peu, puisque ce récit n'est pas rédigé à la troisième personne. Hein. Vous n'écrivez pas que vous voulez inventer dans ses traces, mais vous écrivez que vous voulez inventer dans tes traces. Ce récit, vous l'adressez à cet homme, Ulysse Moïse. On peut peut-être commencer par là. À quel moment ce choix d'écriture, le fait d'écrire ce livre comme une lettre, comme si vous la lui adressiez, vous est venu?
Alors, pas immédiatement, quand j'ai eu le projet de ce livre. J'ai tâtonné, parce que ce livre, d'abord, c'est une forme tout à fait... une forme et un sujet tout à fait nouveau pour moi, qui écris plutôt des essais. Donc j'ai tâtonné, j'ai essayé à la troisième personne, j'ai trouvé ça un peu plat, et je ne trouvais pas, moi, ma place dans l'histoire. De même, d'ailleurs, que j'ai tâtonné dans la construction. Ce qui me semblait évident, c'est que je devais partir de sa mort, de l'énigme de sa mort. Donc j'ai commencé, et à un moment, j'ai complètement bloqué. Au moment où arrivait finalement le mensonge. Alors que le mensonge, on l'avait appris tout de suite après sa mort, et je n'arrivais plus à avancer. Et un ami m'a dit, mais au cinéma, un double flashback, ça marche pas. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, il faut que je pose tout de suite l'énigme de sa mort et l'énigme de sa vie. Ça m'a débloqué. Et quand j'ai trouvé aussi la forme de l'adresse, vraiment, c'est un livre que j'ai écrit avec facilité, je dirais. Mais c'est toujours comme ça, il faut la forme.
Et comment est-ce que vous le comprenez, que le fait de s'adresser à lui est comme ça libérer l'écriture, en quelque sorte? Qu'est-ce que ça permet de s'adresser directement à lui?
Ça permet... d'abord, ça permet de s'inscrire complètement dans l'histoire, dans une sorte de vis-à-vis. Ça permet une grande liberté pour à la fois s'adresser à lui, donc dans cette adresse dresser en effet un portrait, mais en même temps digresser en lui racontant des choses, donc y compris donc c'est une forme j'ai pas vraiment réfléchi, elle s'est imposée après la ce qui me semblait la platitude de la troisième personne, enfin pour ce livre là Mais là, c'était bien, parce que je me suis pas mal glissée, moi aussi, dans cette histoire, tout en faisant le... C'est le portrait, un portrait un peu, en effet, entre souvenir et fiction de cet ami d'autrefois si fabulateur. Mais c'est aussi entre les lignes un peu des souvenirs... pas un portrait de moi, mais une façon de me mettre aussi dans cette histoire.
Ce qui est très beau dans cette forme, c'est que d'une certaine manière, vous faites aussi de lui comme ça en creux. Vous vous adressez à lui comme s'il pouvait devenir à travers ce livre le lecteur de sa propre histoire. Or, dans cette fabulation qui était la sienne et que vous décrivez, hein, vous le dites après sa mort, on sent l'envie, l'ambition de sa part d'être en quelque sorte un personnage de roman, d'être en quelque sorte le héros d'un livre, d'une certaine manière.
Oui, on parlait tout à l'heure du fait, enfin je parlais du fait de se raconter des histoires. Lui, il se les racontait pas, il les racontait à nous tous, en tout cas cet ami qui m'a inspiré ce personnage, puisqu'il y a un léger décalage entre les deux quand même, mais... Donc il faisait de lui et de sa vie une sorte de roman pour nous tous. Et je crois qu'il le faisait, je suis sûre même, qu'il le faisait en miroir de nos attentes, de ce qu'on aimait, de ce qui nous plaisait, de y compris de l'esprit du temps à l'époque, ce qui nous fascinait dans des formes d'engagement, enfin ces engagements imaginaires dans le mouvement noir américain, son histoire de déserteur du Vietnam ne pouvait que, dans ces années-là, ne pouvait que nous fasciner. Donc, je pense que, de toute façon, il n'y a pas, on ne peut pas fabuler, on ne peut pas mentir sans un auditoire et sans être un peu en miroir de cet auditoire.
Est-ce que, parce que ce livre, on l'entend très bien dans ce que vous dites là, il se situe entre plein de genres d'une certaine manière. Il est à la fois un roman en soi, parce que ce personnage, vous en faites, et vous le dites qu'il y a même un petit décalage par rapport au réel, c'est vraiment un personnage de roman, à la fois en tant qu'il était fabulateur, et puis le mensonge lui-même, le récit qu'il s'invente lui-même est tout à fait romanesque, mais il se dessine aussi en creux dans l'écriture de ce livre toute une réflexion sur ce qu'est l'art de fabuler en tant que tel, et le lien entre cette chose-là et la littérature. On parlait tout à l'heure du plaisir qu'il y a à s'inventer des histoires, et vous réfléchissez, vous travaillez cette matière réflexive-là, des liens entre la littérature et ce goût que nous avons à nous inventer des histoires. Est-ce que dans l'envie d'écrire un livre sur ce personnage, il y avait d'emblée cette intuition ou cette envie théorique là, ou est-ce que c'est d'abord, avant tout, l'envie de vous replonger dans le souvenir de cet homme que vous avez connu, qui vous a animé?
D'abord, oui, c'était d'abord le souvenir et l'envie de revenir sur cette histoire et de la raconter. C'était vraiment ça au départ, parce que il n'y a pas que moi, enfin tout ce groupe d'amis autour de lui, nous avons tous été charmés, fascinés. C'était quand même il y a longtemps, et il a laissé un souvenir très vif et très, à deux, trois exceptions près, un très bon souvenir. On s'est pas dit, il nous a raconté des craques, il nous a berné. Non, de toute façon, c'était quelqu'un de, en même temps, de joyeux, de généreux, qui fabulait, et c'était parfois tout à fait merveilleux. Enfin, on aimait écouter ces histoires. Donc, et le souvenir est resté. Donc, mon premier mouvement, c'était vraiment de revenir sur cette histoire. Mais après, de même que cette forme de l'adresse m'est venue, qui est aussi une façon de, c'est une prise de pouvoir, aussi une façon de garder le dernier mot quand même, mais est venue ensuite autour de ce prénom d'Ulysse, ce nom de Moïse que je lui ai inventé, comme d'autres choses, l'idée que tout ça était aussi il faisait de sa vie un roman, mais dans sa façon de faire de sa vie un roman, il y avait plein d'échos par rapport à la littérature, à des personnages mythologiques, à la façon de passer d'une personne à un personnage.
Mais le prénom d'Ulysse, c'était vraiment le prénom qu'il s'était inventé, ou c'est vous qui
l'avez...
Ulysses,
c'est le prénom qu'il s'était inventé. Oui.
Et Moïse, par contre, ça, votre ajout romanesque.
Oui, c'était pas seulement Moïse, c'est-à-dire que, au fond, il s'est inventé une vie, une fausse vie, si je puis dire, et moi, je lui ai inventé une fausse vraie vie.
Oui, sa vraie histoire est en partie reconstruite. Pardon, je vous pose la question tout à fait naïvement, parce que c'est une question qu'on se pose en vous lisant. Moi, j'ai d'abord lu ce livre dans un premier degré absolu, en me posant pas du tout la question de la véracité de ce que vous racontiez, c'est-à-dire que l'histoire que cet homme, dont vous dites que cet homme s'est inventé, et puis l'histoire réelle que vous nous dévoilez peu à peu, je l'ai prise tout à fait pour argent comptant. Et puis en y repensant, je me suis dit, mais enfin, bien sûr, peut-être que tout ça est aussi le fruit de l'invention de Nicolas Lapierre. Ça, c'est un jeu que vous aviez en tête, qui vous attirait aussi dans le rapport à votre lecteur, oui, à votre lectrice.
Oui, j'ai écrit il y a pas mal de temps déjà un petit texte qui s'appelait « La tentation de la fiction », qui est d'ailleurs très présente chez beaucoup d'anthropologues, mais enfin, c'est un Rubicon qu'on n'est pas censé traverser quand même. Et donc, c'est une vieille tentation. Et là, c'est vrai que c'était l'occasion rêvée, si je puis dire. Et d'autant plus séduisante que c'est une forme de fidélité. Quand je dis dans ses pas, oui, il a fabulé, il a inventé, il nous a charmés. Parfois, c'était un peu gros, mais en général, bon, on n'était pas des flics, on n'allait pas chercher. On prenait pour argent comptant tout ce qu'il nous racontait. Et donc, moi, dans la foulée, je me suis autorisée aussi à inventer. Je laisse quelques petits cailloux, mais ils sont discrets, je crois, parce que la plupart de mes lectrices et lecteurs comme vous... prennent ce livre comme un livre plutôt, un portrait, des souvenirs. Et à vrai dire, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance. Sinon, pour moi, c'est vrai que parfois je me dis, mais enfin, j'ai inventé. J'ai presque envie de... Voilà, parce que, par exemple... Il n'était pas à Nanterre en 68. Mais tout ce que je raconte sur cette période de Nanterre en 68 est absolument vrai. Ce sont mes souvenirs. Lui, il avait l'habitude de s'inscrire un peu comme Zelig dans des moments importants de l'histoire ou à côté de personnages importants. Il prenait un air affairé en disant « La semaine prochaine, vous ne me verrez pas, je promène les Habermas qui viennent à Paris. »
Oui, voilà. Parce qu'il se disait l'ami du philosophe allemand Jürgen Habermas.
Entre mille autres choses. Et donc, il se mettait à côté, voilà, à côté des gens importants, dans des situations importantes historiquement, etc. Donc moi, je me suis dit, c'est fidèle, ça. Je le mets dans ce mouvement du 22 mars 68 à Nanterre. Voilà. De même... puisque je cherche quelle était son histoire derrière ses mensonges, eh bien je lui invente aussi une histoire d'haïtien qui me semble coller très bien.
Dans cette émission, Nicole Lapierre, on fait appel à une communauté de lecteurs et de lectrices qui nous écoutent et qui vous lisent et vous adressent des questions. Je voudrais qu'on écoute la question de Margot. Elle a lu votre livre et vous adresse cette question via le compte Instagram de l'émission.
Club et bonjour Nicole Lapierre. Alors merci pour le plus menteur d'entre nous, parce que la lecture de ce roman est une vraie expérience. C'est passionnant de se promener à travers les époques, à travers l'histoire, à travers différents lieux et à travers la littérature aussi, car on revoyage en cherchant une odyssée via ce personnage. On a envie de recopier certaines phrases aussi, tellement elles sont justes et tombées là. Alors j'aurais une question justement sur l'écriture très fine de ce roman, de plus en plus intense, émouvante et fragile et sincère et révélatrice. Est-ce que c'était un tissage volontaire pour aller de plus en plus vers le vrai, ou est-ce que ça s'est fait au fil de l'écriture? Écrivant sur cet ami, avez-vous, vous aussi, eu l'impression de finir par le connaître réellement?
Merci Margot pour cette question. Ces deux questions, peut-être en fait en une, hein, si j'entends bien Margot. Première question, c'est sur la structure du livre. Hein, c'est un livre qui est découpé en différents chapitres, qui aborde à la fois différents moments communs de votre vie avec cet homme. Hein, vous le disiez tout à l'heure, vous commencez par le récit de sa mort, très soudaine, très brutale, au tout début des années 90. Ça se passe en 3 jours à Rome, vous êtes invité à venir assister à un colloque qu'il organise, personne ne s'attend à sa mort et c'est à la suite de cette mort que vous découvrez que cette vie qu'il se racontait était en partie inventée. Et puis, vous plongez ensuite dans différents moments, l'époque de l'Université de Nanterre autour de laquelle vous l'avez connu, et en particulier le mouvement du 22 mars 68 auquel vous avez participé. Et puis ensuite, un voyage en Haïti, vous repartez sur ses traces, les traces de sa vraie vie, etc. Margot demande, est-ce que cette structure, elle a été conçue comme ça, comme un plan, ou est-ce que c'est venu au fil de la plume?
En fait, un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait, des moments autour de lieux sur lesquels je voulais revenir. Nanterre 68, les années SIDA à New York, une certaine atmosphère dans ces milieux de jeunes chercheurs autour de la Maison des sciences de l'homme dans les années 80. Enfin, il y avait... Parce que c'est en même temps, c'est le portrait d'un homme, un groupe autour, mais aussi un peu une génération qui a traversé ces différentes époques. Donc ça, j'avais ces repères, je savais que je... Mais j'ai découvert aussi, ce qui n'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je fais des plans bien construits, parfois je les déconstruis, mais quand même. Là, non, il y a eu aussi une dynamique de l'écriture. Et ça, c'était aussi pour moi une découverte. Et je dirais pas vraiment au fil de la plume. Enfin, si, il y a quelque chose s'est déployé, pas malgré moi, mais comme ça, au cours de l'écriture.
Margot demandait aussi, est-ce que vous avez l'impression de mieux connaître cet homme au terme de l'écriture de ce voyage? Alors c'est intéressant d'entendre cette question avec ce que vous nous avez raconté juste avant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie inventée aussi dans l'histoire de cet homme. Mais malgré tout
Malgré tout, oui, parce que j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps dans sa compagnie posthume, si je puis dire. Et souvent, je dis, puisqu'il y a l'Ulysse, évidemment, d'Homère, il y a l'Ulysse de Dante, il y a beaucoup d'Ulysse, et souvent, je m'entends dire « mon Ulysse ». J'y mets pas de prétention, de comparaison avec les auteurs que je viens de citer, mais simplement... il m'a pas mal habité, je l'ai aussi un peu fabriqué, d'où cette espèce d'appropriation, mon Ulysse.
Mais vous avez l'impression d'avoir appris des choses sur cet homme, là je parle de l'homme réel, hein, l'homme que vous avez connu, en écrivant ce livre?
Je crois l'avoir approché plus, oui, y compris quelque chose qui serait de l'ordre de la... d'une certaine souffrance, il y a une phrase du poète Benjamin Fondane qui a écrit un Ulysse qu'il n'a pas achevé, où il dit, il fait dire à son personnage, il n'y avait pas assez de réel pour ma soif. Et il y avait quelque chose d'assoiffé chez cet homme, d'une soif inextinguible. Alors est-ce que c'est de réel, d'une autre vie, d'une autre... Donc j'ai l'impression quand même de lui avoir restitué quelque chose.
On va plonger dans votre écriture, Nicole Lapierre. Je vous propose qu'on écoute un extrait du livre. C'est un extrait du dernier chapitre qui s'appelle « Le cœur », au sens du cœur antique. Pardon. Il est lu par Oriane Delacroix.
En prenant tes récits pour argent comptant, nous te confortions dans cette existence où tu te projetais. Nous prenions part à l'élaboration de tes mirages. notre connivence un peu fascinée, validait tes vies romancées. En balayant l'incrédulité qui, parfois, surgissait, en bridant nos curiosités et en retenant nos questions, nous voulions sans doute éviter de te blesser par des soupçons. Mais nous ne voulions pas non plus rompre le charme. Le conteur n'est rien sans son auditoire et nous aimions tant tes histoires. Ce qui nous plaisait plus que tout, je crois, c'est que tu réunissais en toi plusieurs identités et plusieurs destinées. Tu ne peux pas imaginer comment, vu d'aujourd'hui où croissent les obstinations identitaires, ce souvenir fait du bien, ni combien il paraît loin, très loin. Juif, noir, un peu chinois, mais cela comptait moins. Cosmopolite, aventurier, polyglotte, intellectuel polyvalent, marxiste hétérodoxe, chercheur sans statut, faisant à l'occasion l'acteur ou le mannequin. Quel splendide cumulard. Tes marginalités faisaient résonner à nos oreilles divers battements du monde. Bref, nous t'avons un peu fait, Ulysse, et étions tes complices. Nous formions, comme une chambre d'écho, le cœur antique qui réverbère les hauts faits du héros.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Un extrait de votre livre, Nicole Lapierre, lu par Oriane de la Croix, la façon dont ce cœur antique, le cœur des amis, s'est fait l'écho des affabulations d'Ulysse, ce personnage. C'est un texte dans lequel on retrouve ce « nous » que vous avez placé au cœur du titre de ce livre, hein, le plus menteur d'entre nous. Vous le disiez tout à l'heure, il y avait aussi l'envie, l'ambition dans ce livre de peindre le portrait d'une génération à travers ce personnage, la génération notamment de ce fameux mouvement du 22 mars 1968 à Nanterre que vous peignez dans un chapitre très joliment intitulé « Nanterre la folie » dans lequel vous racontez comment vous aviez 20 ans en 68 et c'était, quoi qu'on en dise, le plus bel âge de votre vie. On sent qu'il y a une grande nostalgie, mais au sens vraiment positif du terme, dans ces souvenirs-là. À votre avis, de quelle façon l'affabulation de ce personnage, d'une certaine manière, participe de ces années-là? Parce que c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on devine sous votre plume. On a l'impression que ce n'est pas tout à fait un hasard si cet homme et sa manière de s'inventer, si tout ça se passe dans l'euphorie aussi de ces années-là, même si lui, par ailleurs, était un peu de côté par rapport en particulier au mouvement du 22 mars.
C'est très juste. C'est vrai qu'on était, dans la projection de nos rêves, d'une autre vie, d'une autre société. On était fou de politique, fou de culture, fou de littérature, fou de cinéma. On discutait pendant des heures, des nuits. Enfin, il y avait... tout ça était une sorte... C'est très difficile de... J'ai essayé de restituer un peu cette atmosphère. Il y avait une sorte d'ébriété, des idées, de plaisir immense à échanger, à imaginer. C'était. Il faut dire aussi que tout ça a fleuri sur fond d'une société qui était encore très corsetée. On n'imagine pas à quel point. Donc il y avait aussi une sorte de... débrider, de lâcher un peu les choses, de vivre les choses autrement, l'amitié, l'amour, la politique.
C'est intéressant parce qu'à vous entendre, je repense à tous ces passages du livre où on sent que cette grande joie, cette grande effervescence, elle a eu aussi une sorte de revers, hein. C'est un peu comme une médaille à deux faces dans les années qui ont suivi et suite bien sûr, à l'effondrement des deux blocs et à la fin assez brutale d'un rêve qui était, pour le dire vite, celui de la révolution. Cette euphorie, elle s'est renversée bien souvent en très profonde tristesse, voire en dépression, hein, chez bien des personnes qui avaient vécu cette euphorie-là. Vous l'évoquez dans le livre. Et l'une des clés, l'une des hypothèses plutôt de lecture face au à l'énigme vraiment de la mort, que constitue la mort de cet homme, c'est aussi une très profonde dépression. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Vous dites qu'il est possible qu'il soit mort du sida. En fait, on ne saura jamais, on ne sait pas. Mais vous parlez de l'hypothèse d'une grave dépression qui fait écho à toute cette histoire-là.
Oui, non, c'est vrai que toute son histoire et son destin fait en effet écho à la grande histoire, comme on dit. Et car il est vrai aussi que après ce grand élan de 68 qui a quand même traversé tout le pays, d'ailleurs pas seulement la Genèse, pas seulement Nanterre, mais bon, c'est quand même une grève générale, enfin un mouvement social énorme. Après, il y a eu des destins cassés, brisés. Il y a eu des suicides. Il y a eu des histoires un peu cabossées. Et de ce point de vue-là aussi, l'histoire d'Ulysse est un peu en écho, en effet. Avec cette histoire générale, oui.
Ce « nous » qui est inscrit dans le titre du livre, vous le construisez aussi au fil du récit en citant beaucoup ceux qui furent ses amis, parfois ses amantes. Comment vous vous y êtes pris très concrètement? Parce qu'à la fois, on a l'impression que ce travail, il est nourri d'une forme d'enquête, que ces citations, vous avez été les glaner un peu comme on fait en anthropologie ou en sociologie. Et en même temps, on sent bien que c'est tout à fait autre chose. Que c'est absolument pas une enquête au sens sociologique du terme.
Oui, mais j'ai quand même été voir beaucoup de ses amis d'autrefois, qui pour la plupart sont toujours des amis, et pour parler. Alors, c'est pas une enquête, ce sont pas des entretiens au sens classique du terme, mais pour parler longuement avec eux de leurs souvenirs d'Ulysse. Donc beaucoup de propos, de citations sont vraiment ce que c'est pour ça qu'il y a un cœur aussi dans ce livre au sens de cœur antique, c'est-à-dire que il y a mon regard, ma façon de lui parler, de le portraiturer, si on peut dire, mais il y a aussi tous ses points de vue et c'est une façon de au fond, si c'est un portrait, c'est un portrait à la fois par touche à travers tous ceux qui l'ont connu, et aussi en empruntant des traits à la littérature. C'est un portrait composite comme ça que j'essaye de faire. Oui,
en particulier dans ce chapitre qui est le récit d'un voyage que vous faites en Haïti. Si je vous ai bien lu, si je vous ai bien compris, tel que vous le racontez, c'est pas un voyage que vous faites pour partir sur ces traces, mais c'est un voyage au cours duquel vous retrouvez ces traces. Alors je découvre en vous écoutant aujourd'hui qu'en fait, cette partie haïtienne, c'est vous qui l'a portée par rapport à la vie réelle de cet homme que vous avez connu. Pourquoi justement avoir eu envie d'amener Haïti dans cette histoire, Nicole Lapierre?
Parce que, il n'était pas haïtien, mais il aurait pu l'être. Et ce pays, son histoire, sa culture, sa littérature sont pour moi très fascinants, émouvants. C'est un pays que je ne connais pas très bien, mais où j'ai été et qui m'a beaucoup impressionné. Beaucoup impressionné à la fois par une histoire, un destin absolument terrifiant, mais qui ne se réduit pas à cette histoire, qui est en même temps une créativité poétique, littéraire, picturale, extraordinaire.
Et c'est vraiment beaucoup les écrivains haïtiens que vous citez dans ce chapitre. Vous citez Dany Laferrière, mais d'autres.
Absolument.
Vous plongez vraiment dans la littérature haïtienne pour reconstruire cette histoire.
Et donc en faire un haïtien, ça collait bien pour lui, je trouve. Et pour moi, c'était Voilà, c'était une façon de l'inscrire dans, au moins dans un paysage et une littérature que je connais un peu. J'étais un peu inquiète. J'ai demandé à un ami qui est Yves Chemla, qui est un spécialiste, lui un vrai spécialiste de la littérature haïtienne, de relire le livre et notamment ce chapitre. Et voilà, j'étais pas si sûre de moi. Et Yves m'a dit c'est un vrai haïtien. Alors bon, j'étais rassurée, même si ce n'est pas au fond un vrai haïtien.
Ce qui est très troublant et très passionnant aussi dans ce livre, Nicole Lapierre, ce sont aussi les échos très nombreux entre l'histoire de cet homme et votre propre histoire. Vous y faites vous-même directement allusion dans le livre. Votre propre histoire et certains des sujets de recherche auxquels vous vous êtes consacré dans votre parcours, à commencer par la thématique du changement de nom. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, vous avez consacré un livre à ce sujet qui s'appelle tout simplement « Changer de nom », qui était paru aux éditions Stock en 1995. Vous vous y intéressiez à ceux qui changent de nom, et en particulier notamment aux Juifs qui changèrent de nom au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, ce qui fut le cas de votre père, né Liebstein, qui est votre nom de naissance. Votre père, donc, qui choisit de devenir Lapierre, votre nom aujourd'hui. L'écho entre l'histoire de cet homme Ulysse, né urbain, dites-vous, en Haïti, dans le livre, et votre propre histoire. Est-ce que vous aviez aussi conscience d'emblée que c'était l'un des fils que vous aviez envie de tirer à travers cette histoire qui est une histoire de fiction par tous les bouts, si on peut dire?
Oui, ce fil-là et d'autres. C'est-à-dire que quand même, aussi, outre l'amitié, le souvenir, il y a aussi le fait que l'histoire de cet homme croise plusieurs de mes, à la fois de mes sujets de recherche, et qui sont plus que des sujets de recherche, qui sont en même temps des, je sais pas, presque des obsessions. Donc il y a le changement de nom, bien sûr. Il y a aussi la façon de, comment dire ça, de loger une histoire, un malheur minoritaire, en l'occurrence une sorte de destin noir, dans la catastrophe référentielle juive. Et c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai travaillé. Et puis j'ai travaillé sur les mémoires croisées des Juifs et des Noirs dans un autre travail.
Dans un livre qui s'appelait « Cause commune ».
Voilà. Et puis, les questions de déplacement identitaire, d'échappée, m'ont toujours beaucoup intéressée. Bref, quand même, Ulysse réunissait beaucoup de mes thèmes favoris, pour dire les choses.
Restez un peu avec nous, Nicole Lapierre. À 7h, il est déjà 15h51, on reçoit de la visite dans le Book Club.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque mardi à 7h, nous retrouvons Lou Quevauvillier qui vient nous parler de la littérature telle qu'elle se vit en dehors du livre et en particulier dans les univers numériques. Bonjour Lou.
Bonjour Mathilde.
Aujourd'hui Lou, vous nous parlez d'un herbier numérisé.
Oui, et pas n'importe lequel, c'est l'un des plus beaux à regarder. Il s'agit de celui de la grande poétesse américaine Emily Dickinson, dont la poésie écrite au 19e siècle a marqué durablement l'histoire de la littérature mondiale. Cet herbier, il est disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque d'Harvard. Et aucun problème de traduction pour lire Emily Dickinson ici, puisque son herbier est un véritable poème en fleurs. C'est un livre bricolé qui daterait de l'adolescence d'Emily Dickinson. Les spécialistes estiment qu'il date de 1840 et donc elle avait 14 ans quand elle a pressé les premiers végétaux. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pour vous donner un exemple de cas précis où les outils numériques sont des alliés précieux pour conserver et diffuser des documents très fragiles et rares comme l'est cet herbier.
Miam, miam, miam. Mais où est-ce qu'on pouvait le consulter jusqu'alors, cet herbier?
Eh bien, il était conservé conservé avec tous les textes originaux d'Emily Dickinson dans la bibliothèque Houghton, qui est le département des livres et des manuscrits rares de l'université d'Harvard. Mais cet herbier, il a une place particulière dans la collection car il est extrêmement fragile. À chaque fois qu'on l'ouvre, les fleurs s'effritent, donc il est conservé dans une chambre forte. Personne n'a eu le droit d'ouvrir l'herbier pendant des années et les chercheurs et les chercheuses qui visitaient le fond Emily Dickinson devaient se contenter d'une série de photos en noir et blanc d'assez mauvaise qualité. Seuls quelques chanceux et chanceuses ont eu la possibilité d'observer sa couverture et sa couverture uniquement. C'était a priori le dernier grand objet, la dernière archive d'Emily Dickinson à étudier et tout le monde était convaincu qu'en y accédant, on y découvrirait des choses incroyables qui pourraient éclairer l'ensemble de son œuvre.
Bon, mais alors qu'est-ce qu'on y voit? Quel type de fleurs?
En tout, c'est 66 feuillets qui répertorient 424 spécimens de plantes. On y trouve à la fois des plantes vernaculaires du nord-est des États-Unis et précisément du Massachusetts, là où vivait Emily Dickinson adolescente, mais aussi des plantes d'intérieur. Chaque plante pressée est accompagnée d'une note manuscrite sur laquelle la poétesse inscrivait le nom scientifique des plantes. Il faut savoir qu'elle avait une immense passion pour les végétaux et dès ses 9 ans, elle a pris des cours de botanique pour entretenir d'abord le jardin familial et puis plus tard son grand jardin d'hiver. D'ailleurs, de son vivant, la poétesse était plus connue pour ses talents de botaniste que pour sa poésie. Elle a vécu recluse et son œuvre n'a été véritablement découverte et publiée qu'après sa mort, en 1886. Mais celles et ceux qui connaissent sa poésie savent comme la nature est présente dans ses poèmes et à quel point on trouve des références à des thèmes floraux. C'est aussi ça qui rend les chercheurs et les chercheuses particulièrement intéressés par ce qu'ils pourraient glaner dans cet herbier.
Bon, ça donne vraiment très 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 envie d'aller voir, mais l'herbier n'est pas la seule chose du fonds Emily Dickinson qui sera numérisé et partagé librement, Lou.
Non, effectivement, la bibliothèque d'Harvard est en train de photographier tous les objets de la collection Emily Dickinson, y compris les bijoux, les meubles et l'argenterie, et collabore avec les presses universitaires pour créer des publications numériques en couleur des lettres et des poèmes de Dickinson. L'objectif est de rendre tout ce matériel disponible via les catalogues en ligne afin que ces documents uniques soient accessibles au monde entier et non pas seulement à celles et ceux qui pourraient se déplacer. La numérisation permet donc de résoudre un problème que connaissent tous les conservateurs et toutes les conservatrices qui doivent à la fois protéger les œuvres originales et à la fois les rendre accessibles.
Passionnant sujet. Merci beaucoup Lou. On indiquera sur le site de la chronique le lien pour consulter l'herbier d'Emily Dickinson.
Bien sûr.
Merci encore. Votre chronique lecture numérique à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. h 55, c'est l'heure de notre grand jeu des pages musicales. Je vous en rappelle le principe. Au détour d'une lecture, vous tombez sur l'évocation d'un morceau musical. Vous prenez ce texte en photo ou vous le relevez par écrit. Vous nous l'envoyez via notre compte Instagram ou sur notre adresse email lebookclub@radiofrance.com. Votre texte rejoint une petite collection qui nous permet chaque jour de nous quitter en musique. Mais aujourd'hui, je pioche notre lecture musicale dans votre livre, Nicole Lapierre. Je n'ai pas résisté, il y a beaucoup de citations musicales dans ce livre, comme par exemple celle-ci qui vous vient au détour du témoignage d'une amie, Sarah, qui fut l'amante d'Ulysse, le personnage principal de ce livre, et qui vous parle de son souvenir de lui dans ce passage. Ce qui est plus étonnant, c'est l'impression qu'a eue Sarah de ne jamais t'atteindre vraiment. Normalement, quand on couche avec quelqu'un, on le découvre au moins un petit peu, même si ce n'est pas la grande passion. Mais là, rien. Cela restait complètement lisse. Il avait un charme extraordinaire, mais cela glissait, rien n'accrochait. Il y avait en lui une sorte de flou. En l'écoutant dire cela de sa voix douce, m'est revenu l'écho de celle, cristalline, de Jeanne Moreau, chantant dans le blues indolent, une étreinte vague entre deux êtres vagues, c'est un peu renier le néant. Une chanson triste. Quel vide reniais-tu, cher Ulysse, dans les bras de la belle Sarah ? Je l'ignore. En tout cas, qu'elle soit amante ou amie, tu adorais la complicité des femmes, leur écoute, leur proximité indulgente.
Les hommes nonchalants me font des signes vagues et me frôlent de l'épaule vaguement. Une étreinte vague entre deux êtres vagues, c'est un peu renier le néant. Le temps maudit toujours nous presse, le temps pourtant qui va si lentement. le temps efface mes caresses. Alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent esservi de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
Un très grand merci, Nicole Lapierre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Le plus menteur d'entre nous. Il a paru aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Jean-Guilain Meige et Mélodie Hessmann, à la réalisation Lise Combe. Un grand merci aussi à l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Didier Pinault, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Noé Margas, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Alexandre Alaï-Begovic et Marie Richeux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous abonner à son podcast via l'application Radio France.